Hey, alors, bienvenue dans notre nouvelle thématique Histoire de famille. C'est un thème qu'on a à cœur, l'équipe pastorale, depuis. Hey, c'est incroyable, hein? En voulez-vous des histoires de famille? Les ados qui s'en vont. Il y en a des histoires de famille. Il y en a, il y en a, il y en a. Puis si on est honnête, on aime ça suivre ces histoires-là. Okay? On peut penser au Windsor en Angleterre, pour les plus jeunes, les Kardashians aux États-Unis, ou les Obama, et pour les plus vieux, les Lavigueurs au Québec. Voilà. Hein? Parfois même, on les connaît par leur prénom, ces histoires-là, et qu'on aime étudier ça, ça nous intrigue. Puis dans nos propres familles, il y en a aussi des histoires, des belles puis des moins belles. Puis c'est pas simple gérer une famille, puis c'est pas simple faire partie d'une famille. On ne la choisit pas, notre famille. Puis là, des fois, on se met à se comparer, on essaye de faire de notre mieux, puis on regarde l'autre famille, puis on regarde le frère, la sœur, puis on se compare. Mais c'est où le meilleur endroit pour s'inspirer, pour savoir comment fonctionne une famille saine? Dans la parole. Dans la parole. Puis je vous le dis, il y en a des tonnes d'histoires de famille inspirantes. On aurait pu faire un an sur histoire de famille, et mon cœur aurait dit oui. Mais non, c'est pas vrai. Pour vrai, il y a vraiment beaucoup d'histoires desquelles on peut apprendre. On fait toute partie d'une famille. Ça concerne tout le monde ici. On fait tous partie d'une famille, peu importe la relation que nous avons avec elle, on fait tous partie d'une famille. Puis traditionnellement, quand on pense aux familles, on pense à papa, maman et des enfants. Mais moi, ce matin, je veux qu'on parle d'autre chose. Une famille, ça commence par quoi? Un couple. Puis je crois profondément qu'un couple est une famille en soi. Je suis consciente ce matin que c'est un sujet qui peut être extrêmement sensible, que certains parmi nous ont vécu ou vivent des drames actuellement. Je ne prétends pas être parfaite, je ne prétends pas en tout que mon couple est parfait. Je pense pas être en mesure de donner des leçons à personne, mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde un couple ordinaire dans la parole. C'est ce que vous voulez le faire avec moi? On va regarder un couple. C'est pas une histoire spectaculaire, OK? Il n'y a pas là, de... En apparence, c'est pas une histoire extraordinaire. Il n'y a pas de mer qui s'ouvre en deux. Il n'y a pas de feu du ciel qui descend. Pourtant, c'est un couple qui a changé le cours de l'histoire de l'Église. Un couple ordinaire. Pas des apôtres, pas des prédicateurs extraordinaires, juste un couple que Dieu a utilisé puissamment. Puis leur vie nous amène à nous poser une question aujourd'hui. Puis si Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire avec nos relations ordinaires, normales. Dieu se sert de nos relations intentionnellement, puis des relations unies pour faire avancer son royaume. À quoi ça ressemblerait une famille, une vie qui est réellement aligné avec la mission de Dieu pour nous. On va prier ensemble ce matin. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur ce matin à ta parole. Merci Éternel de nous parler pour nos familles, nos couples, nous personnellement aussi, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui nous aide et qui nous accompagne, Seigneur. Merci, Éternel, pour ta parole. Amen. Alors, on rencontre pour la première fois Priscille et Aquilas dans Acte 18. On va lire ça ensemble. Vous pouvez tourner avec moi. Acte 18, 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux trois, c'est le nom du verset. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Alors, à travers ce couple, on découvre un secret qui pourrait être le pilier de nos familles, le pilier de nos vies, puis qui pourrait être extrêmement transformateur pour notre Église. Écoutez bien ça. Priscille et Aquilas formaient une équipe. Qu'est-ce qu'ils formaient? Une équipe. On les retrouve à 6 reprises dans la Bible. OK, dans le Nouveau Testament. On les voit nommer 6 fois, ce couple-là. Puis à chaque fois, ils sont mentionnés un avec l'autre. Jamais, jamais, il y a un seul passage où il y en a un qui est mentionné puis pas l'autre. C'est pas un détail. La Bible, il n'y en a pas des détails de même. C'est prévu. C'est un appel, c'est un exemple. Leur unité faisait, mais fait encore partie de leur témoignage. Ils travaillaient ensemble, Priscille et Aquilas. Ils ne servaient pas Dieu chacun de leur côté. Ils formaient une réelle équipe. Puis ce matin, on va regarder 3 aspects ensemble. D'abord, ils formaient une équipe dans leur défi. Là, vous allez me dire, bien, c'est sûr, ils servaient le Seigneur ensemble, ça devait être facile, ça devait aller bien dans leur couple. Mais non, ils ont eu leur lot de défis. D'abord, ils ont été expulsés de Rome. Ce n'est pas petit être expulsé d'une ville. L'empereur Claude, à l'époque, c'est le Claude dont on a parlé tout à l'heure, il avait décrété un édit qui chassait tous les Juifs de la ville de Rome à cause des tensions. Puis Priscille et Aquilas y ont été déracinés, enlevés de leur pays, injustement, puis pitchés dans un autre, sans avoir le contrôle sur leur avenir. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de ne pas savoir ce qui s'en vient, pas d'avoir de contrôle sur ce qui s'en vient dans notre vie? Les commentateurs mentionnent qu'il y aurait été entre 40 000 et 50 000 Juifs à être exilés à ce moment-là. Ils sont arrivés dans une nouvelle ville, Corinthe, une ville super commerciale et à la réputation des mœurs légères. Ça ne devait pas être simple pour eux. Puis il a fallu faire preuve de beaucoup, beaucoup de résilience. Mais c'est là qu'on voit la grandeur de notre Dieu. C'est là qu'on voit que Dieu est incroyable. Leur lieu sombre, leur lieu d'exil, là où c'était vraiment terrible pour eux, allait devenir le lieu d'une rencontre surnaturelle, d'un rendez-vous divin. L'apôtre Paul était à son 2e voyage missionnaire. Il a justement arrêté à Corinthe. Puis il est allé vivre chez qui? Priscille et Aquilas, parce qu'ils faisaient le même travail, ils fabriquaient des tentes. Donc c'était facile, mais cette rencontre-là, professionnelle, marquerait le début d'une collaboration spirituelle durable. Le couple venait de vivre une tragédie épouvantable. Puis Dieu, lui, dans sa bonté, dans sa grandeur, il a utilisé ça pour sa gloire. Pour moi, c'est une leçon, ça. Dieu a utilisé la tragédie pour sa gloire. Il aurait pu, là, Priscille et Aquilas, adopter une posture de victime, puis dire « Ah, oh, on est misérable, on fait pitié, puis maugrer, puis se diviser, puis ils n'ont pas abandonné. » C'est pas ça qu'ils ont fait. Vous savez, Dieu, il nous a créés dans un but précis, chacun de nous. Se concentrer sur lui, puis sur l'éternité. Parfois, à mon avis, on idolâtre le mariage. Puis on le voit comme une fin en soi. Mais le but, ce n'est pas d'être marié, ce n'est pas non plus d'avoir des enfants. Le but, c'est d'être ensemble puis d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. C'est supposé d'être ça, le but de tout chrétien. Le but, c'est qu'on amène des gens dans l'éternité avec nous. Des fois, on reste concentré, focusé sur ce qui se passe sur terre. Priscille et Aquilas l'avaient très, très bien compris. On ne voit pas dans la Bible s'ils ont eu des enfants ou non. Fait que je ne dirai pas « Ah, ils n'en ont pas eu » ou « Ah, ils en ont eu ». Je ne peux pas le dire, ce n'est pas écrit. Mais ils avaient tellement compris le plan de Dieu pour leur couple. Malgré la persécution, ils ont travaillé ensemble. Ils ont gardé une perspective éternelle, puis on va voir plus tard tout ce qu'ils ont fait. C'était une mission commune qu'ils avaient ensemble. Puis ils ont cherché à être fidèles. Puis ça n'a pas dû être toujours facile. Honnêtement, si on est super honnête, c'est pas toujours facile de travailler avec son conjoint ou sa conjointe. Là. Peut-être pour vous, tout est beau, là. Si vous êtes honnête. Mais vous savez, une équipe ne se révèle pas dans les moments faciles de la vie. C'est dans les tempêtes. C'est dans les défis. Que l'unité cesse d'être une idée puis que ça devient une réalité. C'est dans les tempêtes que l'unité cesse d'être une idée puis que ça devient une réalité. quand dans nos vies, les attentes familiales éclatent, quand les finances ne vont pas bien, quand la fatigue s'installe ou que la maladie arrive, quand la ménopause fait des siennes, l'andropause aussi, quand il y a des tragédies, quand la réalité ne correspond plus à l'idéal qu'on s'était fait du couple puis de la famille. Qu'est-ce que les gens voient en nous? Est-ce qu'ils voient notre unité? Est-ce que les gens y voient Dieu à travers notre relation avec notre conjoint ou votre conjointe? Est-ce qu'on garde l'idée de l'éternité dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur? Je sais qu'il y a des saisons dans une vie de couple. Je suis très au courant. Il y a des moments pendant lesquels une famille peut vivre des difficultés innommables. Mais ça, c'est la vie sur terre. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on se marie que la vie va être belle et facile. Mais on sera pas seul, par exemple. Puis c'est dans les moments difficiles que l'idée de l'équipe est la plus cruciale et la plus importante. Il y a un moment dans ma vie où je pleurais beaucoup. J'avais beaucoup de peine. Je vous en ai déjà parlé, tout le monde connaît mon histoire. Puis je me revois un soir dans mon ancienne maison, dans le salon, en train de pleurer très, très fort. Et parce que je ne tombais pas enceinte. Je n'avais pas eu d'enfant encore. Et je pleurais. Tu sais, Anne dans la Bible qui pleure parce que je comprends ça, qu'est-ce que ça veut dire. Puis je pleurais. Puis là, mon mari est arrivé, Maxime est arrivé. Puis là, il m'a pris par les joues. Il m'a dit, Annie, j'ai pas marié une femme. J'ai pas marié une mère. J'ai marié une femme. Puis on va passer à travers ça ensemble. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était dans mon équipe. Parce qu'avant, je n'avais pas catché qu'il était dans mon équipe. Il l'était, là. Mais mon cœur n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore compris. Alors, est-ce qu'on peut se poser les vraies questions ce matin? Est-ce qu'on travaille en équipe ou on se tiraille? Est-ce qu'on s'élève l'un et l'autre ou on s'écrase? Est-ce qu'on accuse l'autre ou on regarde dans la même direction, ensemble? Les tempêtes de la vie vont arriver, c'est sûr. Puis l'unité, ça ne se décrète pas quand il y a une difficulté. Bon, mais là, on va être unis. C'est pas de même, ça fonctionne. Ça se bâtit, ça se construit avec le temps. Dans les petites choses de la vie, un, dans l'humilité, en admettant quand ça ne va pas bien. Hey, moi, j'aime ça quand il y a un couple qui arrive puis qui me dit tôt, ça ne va pas, on a besoin d'aide, qui n'attendent pas qu'il soit trop tard. Là, vous entendez le cœur du pasteur de la famille. Quand ça ne va pas un petit peu, c'est là qu'il faut agir. Pas quand ça ne va pas bien, beaucoup. Après ça, ça se construit dans la douceur, en choisissant de ne pas attaquer l'autre tout le temps. Puis dans la patience, en croyant que Dieu peut agir. Oh, que je connais des personnes qui ont prié en silence pendant des années pour que Dieu agisse et Dieu agit. Une équipe spirituelle mature, elle ne cherche pas à avoir toujours raison. En fait, Éphésiens 4, 2 nous rappelle, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns et les autres dans l'amour. » Ça cherche à faire grandir l'autre, à honorer. Une équipe saine spirituellement va s'aimer à travers les défis, en parole, en action, en gestes. Puis les gens autour de nous devraient voir dans notre façon de servir notre mari, dans votre façon de servir votre épouse, un clin d'œil de l'humilité de Jésus. Puis Priscille puis Aclas, ils n'allaient pas vivre juste une épreuve, mais plusieurs. Ils ont été persécutés. On dit même, les commentateurs, puis on dit même qu'ils seraient morts en martyrs. Mais ils n'ont pas construit leur vie autour de leur couple, mais autour de Dieu. Puis ça, à mon sens, c'est la stratégie la plus transformatrice pour un couple. Leur unité, elle ne s'est pas arrêtée à survivre aux tempêtes, mais elle s'est exprimée dans leur quotidien. Une vraie équipe, ça sauve aussi. Fait que oui, ils ont persévéré en équipe comme dans les défis, mais aussi dans l'hospitalité. Deuxième point. En fait, une des marques les plus frappantes de la vie de Priscille et Aquila, c'est certainement leur hospitalité. Écoutez bien ça. Paul écrit à leur sujet. « Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquila, c'est Priscille. » Vous saluez chaleureusement dans le Seigneur ainsi que l'Église qui se réunit chez eux. Leur maison n'était pas juste un lieu de repos pour l'apôtre Paul, c'était un lieu de mission. Ils ont ouvert leur maison et leur cœur à Paul. Ils l'ont accueilli. Ils ont permis de vivre chez lui, chez eux, puis de travailler avec eux. Puis l'hospitalité, ça n'a pas été ponctuel, genre 2 semaines en vacances. Paul est demeuré auprès d'eux 18 mois, un an et demi. Imaginez ça, 18 mois de vie partagée, 18 mois de conversation, de prière, de travail, de ministère, puis ce qui aurait pu rester juste une collaboration professionnelle est devenu une amitié spirituelle profonde, une relation spirituelle. Leur maison, c'est sûr que c'était un lieu où l'Évangile était vécu au quotidien, puis il y a une amitié durable qui s'est formée. Puis j'imagine tellement l'apôtre Paul assis autour d'un repas en train de leur enseigner les vérités de la parole. Incroyable! Mais leur hospitalité, ça n'a pas dû être confortable. Ça a été coûteux. Ça impliquait des risques puis des sacrifices. L'apôtre Paul va dire plus tard dans Romains 16, 3-5 qu'ils ont risqué leur vie pour moi. Il parle de Priscille et Aquilas. Non seulement moi, mais toutes les églises des païens leur sont reconnaissantes. Ce qui distingue profondément Priscille et Aquila, ce n'est pas juste qu'ils avaient une maison, qu'ils en possédaient une, mais qu'ils ont choisi de la mettre au service de Dieu. Puis leur foyer, leur unité familiale est devenue un lieu de rassemblement pour l'Église. Puis ils ont fait ça dans 3 villes, Corinthe, Éphèse et Rome. À une époque où il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de 10-15 rues des Gadelles, super belles, extraordinaires, il n'y avait pas ça. Ils ont offert leur maison, leur espace pour que les croyants puissent se rassembler, puissent se retrouver, prier, être enseignés et grandir. Ce n'était pas quelque chose de banal, là. Mais eux, ils ont compris quelque chose d'essentiel. Ce qu'ils possédaient, ça ne leur appartenait pas. C'était un outil. Tout ce qu'on a, tout ce qu'il y avait, était un outil pour le royaume de Dieu. Tu sais, la mission dont je vous ai parlé au départ, là, ils l'avaient en tête. Leur maison, leur métier, leur temps, leurs ressources, tout devenait disponible pour la mission. Leur maison était un centre de communion fraternelle puis d'enseignement. Ils ont créé un environnement propice à la croissance spirituelle dans leur maison. Puis ça, moi, je trouve que ça nous confronte aujourd'hui dans notre culture. On a plus tendance à protéger nos espaces, nos cœurs. Moi, la première. On compartimente notre vie, hein? D'un côté le spirituel, d'un côté le privé. Mais pour eux, il n'y avait pas cette séparation-là. Leur foi habitait leur maison. Ils avaient compris un principe fondamental, c'est utiliser tout ce que tu as pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est important, c'est la foi des gens. C'est que les gens soient sauvés, qu'ils aient accès à l'éternité. Ils ont compris qu'il fallait utiliser tout ce qu'on a pour la gloire de Dieu, tout ce qu'on a pour servir l'Église, pour bénir les autres, pour annoncer l'Évangile. Le foyer chrétien devrait être un lieu stratégique. Nos familles devraient être des lieux stratégiques, un lieu où on peut accueillir ceux qui ne connaissent pas Dieu, un lieu où on peut s'encourager les uns les autres, où on accueille nos enfants dans la bienveillance, où on accueille le voisin, un lieu où la foi se vit, se partage, se transmet. Il n'y a pas de meilleur endroit pour construire des relations profondes que dans un foyer ou autour d'un repas. C'est là que les masques tombent. C'est là que la vraie vie et la vie réelle se voit, puis c'est là que Dieu veut agir. Quand c'est la vraie vie. Frisil et Aquilas nous montrent que l'hospitalité, ce n'était pas un détail secondaire de la vie chrétienne. Non, non, c'était l'expression concrète de l'Évangile. Fait que la question, elle se pose pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise tout ce qu'on a pour la gloire de Dieu? Nos maisons, nos ressources, notre temps. Est-ce que nos relations sont ouvertes à l'œuvre de Dieu? Ou est-ce qu'on reste avec juste les nôtres, t'sais? Parce que c'est trop prenant, c'est trop confrontant. Vous savez, c'est pas juste de nos maisons dont je parle, parce que je comprends qu'il y en a qui ont des plus grandes maisons, il y en a qui ne sont pas à l'aise, il y a toutes sortes d'affaires, je suis super consciente. Mais nos cœurs, par exemple, ça, est-ce qu'on ouvre nos cœurs aux gens autour de nous? Est-ce qu'on ouvre nos cercles d'amis aux autres personnes, aux étrangers, aux nouveaux arrivants, aux nouvelles relations? Est-ce qu'on est game d'aller vers les nouveaux? Est-ce qu'on a vraiment en tête le royaume ou on a en tête notre confort? Quand on décide de faire équipe avec Jésus, quand on devient sauvé, même les espaces les plus ordinaires peuvent devenir des espaces extraordinaires, des espaces de transformation. C'est souvent autour d'une table dans une maison que le royaume de Dieu avance le plus puissamment. Mais tu sais, leur maison n'était pas juste ouverte, ils n'ont pas juste ouvert leur maison aux chrétiens pour accueillir puis recevoir à manger. Non, non, ils l'ont utilisée de façon stratégique pour former, pour enseigner. Ils ont même été une équipe dans la transmission, dans l'enseignement. Un juif ordinaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'est dans Actes 18. À Éphèse, ils ont rencontré un homme extraordinaire, Apollos, dont on va entendre souvent parler plus tard. Il était brillant, éloquent, passionné, mais incomplet dans sa compréhension de l'Évangile. Puis encore une fois, Priscille et Aquilas y ont agi ensemble. Ils ne l'ont pas humilié. Ils ne l'ont pas exposé publiquement. Ils n'ont pas été baveux. Ils l'ont pris à part autour d'un repas, puis ils l'ont enseigné ensemble. Ils ont servi ensemble. Ils l'ont corrigé avec grâce ensemble. Le terme grec ici, c'est ectitémie, qui signifie exposer, déclarer. Et ça, c'est un acte théologique authentique. Donc, Priscille et Aquilas ont enseigné théologiquement ensemble Apollos. Paul les appelait même ses compagnons d'œuvre. Ils travaillaient et servaient à côté des autres chrétiens, mais un avec l'autre aussi. Priscille et Aquilas ont saisi que la seule chose qui est importante, c'était le salut des âmes, puis un enseignement sain. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on oublie ça dans nos vies personnelles, que ce qui est le plus important, c'est le salut des âmes, de nos enfants. Le salut, c'est la chose la plus importante. Ils ont investi leur temps, leur effort sur ce qui est éternel. Je trouve que ça nous porte à réfléchir. Puis autre belle chose, il n'y avait pas de compétition entre eux. Aucune. Pas de recherche de pouvoir, pas de lutte de pouvoir, pas un qui cherche à écraser l'autre. Juste de l'honneur. Savez-vous quoi? On les retrouve 6 fois dans la parole, je vous l'ai dit tout à l'heure. À 3 reprises, Priscille est nommée en premier, puis à 3 reprises, Aquilas est nommée en premier. Ce n'est pas un détail. Dans la Bible, quand on nomme quelqu'un en premier, c'est selon l'ordre d'importance. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul et Luc, les deux, ont reconnu à certains moments que Priscille était plus importante dans l'enseignement et à un autre moment que Aquilas était plus important. Égal, 3-3. C'était assez audacieux pour l'époque. On y voit l'importance de Priscille comme un clin d'œil, comme un résultat du ministère de Jésus qui, lui, a placé l'homme et la femme collaborateurs pour le royaume de Dieu, tous les deux. C'est la force du partenariat dans l'œuvre, un homme, une femme, ensemble. Ils ont été courageux de le faire à une époque où la femme n'était même pas considérée et qu'elle n'était pas citoyenne. C'était une époque où on n'était pas considéré. Mais Paul, lui, oui. On devrait s'en inspirer en apprenant à travailler ensemble, en tirant parti des talents l'un de l'autre, des dons que Dieu a donnés à l'un, que Dieu a donnés à l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des dons que j'ai que mon mari n'a pas, puis il y a des dons que lui a que j'ai clairement pas. Je soupçonne que c'est le cas pour tout le monde. Je fais juste soupçonner. Ils formaient une équipe dans les défis, dans leur maison, dans leur mission. Puis plus on regarde leur vie, plus on réalise que ce n'était pas leur contexte qui était parfait, puis ce n'est pas leur contexte qui a fait en sorte qu'ils étaient merveilleux et qu'ils ont été utilisés. Non, c'était leur unité d'esprit. Puis cette même unité-là, Dieu nous l'offre aujourd'hui. Et tôt ce matin, on va prendre du temps dans la louange, dans la parole, les musiciens peuvent revenir. Priscille et Aquilas, c'est pas juste une belle histoire. C'est un appel. Un appel à arrêter de vivre chacun de notre côté. Un appel à arrêter de protéger notre petit confort. Puis un appel à arrêter de voir notre couple comme une fin au lieu d'une mission. Soyons honnêtes, là, on peut vivre dans la même maison sans faire équipe. On peut aimer Dieu, les deux, sans être alignés. On peut être occupé sans être utile pour le royaume. On est occupé à toutes sortes d'affaires, mais pas pour le royaume. Eux, ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi l'unité dans les défis. Ils ont choisi l'ouverture de leur maison. Puis ils ont choisi surtout l'intention dans leur mission de couple. Puis Dieu les a utilisés puissamment. Donc, la question elle se pose pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on veut faire équipe pour le royaume? Est-ce qu'on veut vraiment faire équipe pour le royaume? Imaginez ce que ça pourrait faire si nos couples devenaient vraiment alignés avec Christ. Imaginez ce que Dieu pourrait faire si nos maisons, chacune de nos maisons, devenaient des lieux de transmission de la foi avec nos enfants, mais avec les gens autour de nous. Imaginez ce qui pourrait se passer. Imaginez ce que Dieu pourrait faire si on arrêtait de vivre pour nous, mais qu'on vivait ensemble pour lui. Mais là, je sais que c'est un modèle que Dieu nous donne, Priscille et Aquilas. Mais c'est possible que la réalité soit différente. Dans une équipe, il faut être deux. Puis ça peut arriver qu'une des deux personnes soit la seule à aspirer à cette idée d'équipe-là. Je comprends très bien que ce n'est pas simple, qu'il y a des enjeux. Il peut avoir des enjeux au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé financière, de la santé spirituelle. Je le sais qu'il y a des saisons dans la vie, qu'il y a des drames, qu'il peut y arriver, des séparations. On vit parfois avec les choix de l'autre, avec les péchés de l'autre, avec le déshonneur de l'autre. il y en a un des deux qui peut quitter la foi aussi. Que Dieu nous garde ce matin de juger quand il y a quelque chose qui se passe dans une autre famille ou dans un autre couple. Que Dieu nous garde de juger. Mais je sais une chose, c'est qu'on peut prier. On peut prier. Je sais aussi qu'il y a un moyen de servir Dieu fidèlement, même si conjoint ne suit pas. La mère de Timothée dans la Bible, son conjoint, c'était pas un chrétien. Elle a suivi Dieu fidèlement. Elle a enseigné son fils fidèlement. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Timothée est devenu quoi? Un grand prédicateur, un pasteur d'église. Je sais qu'on peut servir Dieu fidèlement même si on est seul. Quelquefois, même notre service pour Dieu, notre amour pour Christ, peut être un témoignage puissant pour le conjoint ou la conjointe. Ça peut les amener au Seigneur. Nos enfants aussi. Puis même si le couple ne fonctionne pas de façon idéale, on n'échoue pas dans notre service pour Dieu. J'ai toutefois la conviction suivante. On doit se battre à genoux pour nos couples. Pas juste les nôtres. Pour les couples autour de nous. Je suis convaincue qu'on en connaît tous. Qu'on se batte pour les couples autour de nous qui rochent, pour qui c'est difficile. Puis qu'on se batte pour les prochains couples. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à prier pour les couples de leurs enfants et de leurs petits-enfants? Moi, oui. Moi, je sais que mes parents l'ont fait. Qui ont prié pour moi. L'autre jour, je priais avec ma petite fille, puis j'ai prié pour son futur mari. Elle me regarde. « Maman, à 10 ans, savez-vous quoi? J'ai raison. Il faut prier pour les futurs couples de nos enfants. C'est trop important. C'est trop important parce que un couple uni entre les mains de Dieu, c'est une force spirituelle. » Et l'ennemi ne veut pas de force spirituelle. Tout ce qu'il veut, c'est la destruction de nos familles et de nos couples. Je le sais que c'est ça que l'ennemi veut. Mais je sais que le plan de Dieu, c'est une histoire telle que Priscille et Aquilas. Un couple égaux. Égaux en valeur, égaux en fonction, égaux qui travaillent ensemble, qui marchent ensemble pour le royaume. Et que Dieu nous donne d'avoir des couples comme ça, qui s'honorent, qui se relèvent. Aujourd'hui, ce n'est pas un appel à être parfait. Parce que moi, je ne suis pas parfaite. Peut-être vous, pas moi. Mais c'est un appel ce matin à s'aligner avec le cœur de Dieu pour nos couples ou pour les couples autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous aspirez même pas à être en couple, c'est correct. Mais il y a des gens autour de vous et ça, vous pouvez prier pour ces gens-là. Être à genoux pour ces gens-là. Seigneur, fais de nous une équipe, pas pour nous, mais pour ton royaume. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier ensemble pour les gens qu'on connaît. Peut-être que, un, vous connaissez un couple en difficulté. Puis vous voulez prier pour eux. Bien, je nous invite à prier ensemble, à s'avancer en avant. On va prier ensemble. Il y a des gens qui sont là pour prier. Qu'on puisse prier pour ces couples-là. Peut-être que c'est vous que vous avez oublié depuis quelques années de travailler en équipe. Puis que c'est une lutte de pouvoir entre « c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est, hein? » On se tire par le bas. c'est moi l'homme, alors c'est moi qui décide, ou bien c'est moi la femme, c'est moi qui ai raison. Qu'on soit assez humble pour s'avancer et prier pour nos couples. Et peut-être que vous avez des enfants pour qui vous voulez prier à l'avance. Dieu est le Dieu des miracles. Je sais qu'il peut faire toutes choses. Mais je sais que l'ennemi est ravageur aussi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Qu'on puisse prier? Je sais qu'il y a une équipe extraordinaire qui est là pour prier pour les couples. C'est la base de toute famille. Dans les prochaines semaines, on va étudier les frères, les sœurs, les relations familiales. On va étudier aussi quand ça va pas bien. C'est tout du monde qui le porte vraiment fort. Mais ce matin, on voulait commencer par la première affaire. Une famille, ça se bâtit avec un couple. Puis c'est pas parce qu'une fois, ça a pas bien été que ça va toujours pas bien aller. Dieu relève, Dieu donne des chances, Dieu peut redonner une nouvelle vie. Amen. Alors, si ça n'a pas bien été une fois, Dieu relève, Dieu peut redonner une nouvelle vie. Amen. Je crois que Dieu est merveilleux. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ce temps où on a pu voir la vie d'un couple ordinaire, mais que tu as utilisé pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce même cœur que Priscille et Aquilas. Un cœur aligné sur toi, sur la mission que tu as pour nos vies, de parler de toi autour de nous, parce que c'est juste ça qui compte. Seigneur éternel, je te prie pour des couples en santé, des couples qui persévèrent dans les défis, qui ouvrent leur maison et leur cœur envers les autres, puis qui ont les yeux alignés sur l'éternité et pas sur autre chose, juste sur la foi des gens, Seigneur. Merci éternel parce que tu agis. Je prie de nous mettre à cœur des couples pour qui on doit prier, des personnes pour qui on doit prier. Je te prie, Jésus, de nous donner ton cœur et tes yeux. Qu'on demande l'aide quand c'est le temps. Merci, Éternel, d'agir dans chacune de nos vies pour qu'on soit une église aligné avec ton cœur. Parce qu'on comprend à quel point c'est important la vie de couple. Merci Jésus, parce que tu es merveilleux.